journal. Bonsoir Frédéric Barrère.
Bonsoir à tous. Fin de campagne pour les élections régionales et départementales. Dernière déclaration et nouvelle polémique dans les Pyrénées-Orientales. Le chef de file de la droite et du centre prêt à travailler avec le Rassemblement National s'il est élu. Colère à gauche, Maxence Lambrecq, Simon Le Baron dans un instant. L'Amérique sous le choc après l'effondrement d'un immeuble à Miami en Floride et redoute un bilan humain catastrophique. Les secours s'en sont nouvelles de 159 personnes. L'enquête pour viol contre Patrick Poivre d'Arvor classée sans suite pour prescription et manque de preuves. 8 plaintes avaient été déposées. Dans ce journal également, la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Paris. Les fonds marins en Méditerranée pollués par les déchets plastiques. La prescription culturelle du vendredi avec une BD, Le désert sans détour. Et puis du rugby, finale du top 14 ce soir au Stade de France entre Toulouse et La Rochelle à 19h20. Le téléphone sonne, Claire Servageon, comment lutter contre les LGBT-phobies?
Effectivement, la question des discriminations est plus que jamais à la une de l'actualité. On l'a vu cette semaine avec le cas de la Hongrie. Emmanuel Macron a d'ailleurs dit tout à l'heure à Bruxelles qu'il s'agissait d'une bataille civilisationnelle et qu'il ne fallait rien céder sur ce point. Demain, ce sera la marche des fiertés à Paris, l'occasion de parler des discriminations et de la façon de les combattre. On en parle au 01 45 24 7000.
France Inter.
Fin de campagne étolée dans les Pyrénées-Orientales, au cœur de l'agitation, un rapprochement entre les Républicains et le Rassemblement National dénoncé par Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. Tout est parti d'une déclaration hier de Jean Sol sur France Bleu Roussillon. Le chef de file de la droite et du centre pour les élections départementales s'est dit prêt à travailler avec le Rassemblement National s'il était élu président du département. Et pourquoi pas, répond le maire RN de Perpignan, Louis Alliot. Les candidats du RN peuvent très bien s'entendre avec les élus LR pour évincer la gauche socialo-communiste, dit-il sur Twitter. Olivier Faure dénonce la manœuvre, demande à Jean Castex, le Premier ministre, et à Christian Jacob d'intervenir. Le président des Républicains désavoue cette alliance. Maxence Lambrecq.
À Perpignan, après sa victoire, Louis Alliot a décroché une vice-présidence de l'agglomération tenue par la droite. Est-ce que ce modèle peut se reproduire? Voici la réponse hier sur France Bleu Roussillon du candidat LR Jean Sol.
Ça pourrait se faire dans l'apaisement, sur la base d'une représentativité des différentes sensibilités. Je le répète, autour d'un projet et au service de notre département et de tous ses habitants, sans exception ni sectarisme.
Le Premier ministre désapprouve toute ambiguïté avec le RN, réagit l'entourage de Jean Castex, bien embarrassé par cette sortie, qui est évidemment bien accueilli par Gilles Foxonnet, chef de file du RN.
Il est tout à fait compatible de travailler avec tous les démocrates. Laissons les électrices et les électeurs, puisque nous les invitons à venir plus nombreux, à venir voter dimanche. Laissons-les venir voter dimanche.
Une alliance paraît incontournable, car RN, LR, PS, personne n'est capable d'avoir une majorité absolue dimanche. La socialiste présidente sortante, Hermeline Malherbe, n'est en rien surprise.
Non mais on a compris que la porte était ouverte entre la droite et l'extrême droite. On l'avait entendu dimanche ce soir, donc ça c'est pas nouveau aujourd'hui en tout cas. Les seuls qui ont un projet clair, c'est ceux de notre majorité aujourd'hui.
Face à la polémique, le candidat LR dénonce une tentative d'intox indigne. Il exclut dans un communiqué toute alliance d'appareil, mais veut fédérer les élus de bonne volonté. Ça commence souvent ainsi.
Maxence Lambrecq, et la campagne prend fin ce soir à minuit avant le scrutin de dimanche. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Et ce que l'on peut noter durant cette campagne d'entre-deux tours, c'est sans doute que les enjeux nationaux et l'implication de certains leaders sont passés au second plan.
Oui, profil bas, clairement, notamment pour le premier d'entre eux, Emmanuel Macron. Pas un mot cette semaine sur les régionales. Jean Castex, lui aussi, s'est fait très discret. Le Premier ministre avait multiplié les déplacements de soutien aux candidats de la majorité avant le premier tour. Là, rien ou presque, hormis un apéritif hier soir avec la tête de liste en Ile-de-France, Laurent Saint-Martin et ses militants. Éric Dupond-Moretti et ses quatre collègues du gouvernement qui avaient été envoyés dans les Hauts-de-France, eux, sont déjà éliminés. Quant à Marine Le Pen, elle ne s'est même pas déplacée en PACA hier soir pour soutenir sa meilleure chance de victoire, pour ne pas dire la seule, Thierry Mariani. Bref, ceux qu'on présente comme les favoris de la présidentielle se sont effacés cette semaine derrière la bonne vieille implantation territoriale de la droite et de la gauche.
Et c'est surtout la gauche, Simon, qui a animé cet entre-deux-tours.
Des alliances avec les écologistes réussies en Ile-de-France, dans les Pays de la Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Centre-Val-de-Loire, en Bourgogne-Franche-Comté, d'autres raté en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et un psychodrame en Ile-de-France. L'ancien Premier ministre Manuel Valls appelle à voter Pécresse contre l'alliance Bayou-Pulvar-Autun, tout comme l'ancien président socialiste de la région Jean-Paul Huchon. Lionel Jospin et Christiane Taubira aujourd'hui leur répondent en soutenant cette fusion vers PS Insoumis, persuadés de pouvoir reprendre la région à la droite.
À la droite, justement, la droite de son côté, arrivée en tête à l'issue du premier tour, attend dimanche soir 20h. Pas si sereine que cela.
Non, d'abord parce que la situation, on l'a dit, est brûlante en PACA. Le duel Muselier-Mariani s'annonce particulièrement serré. Ensuite, parce qu'il y a un risque aussi en Pays de la Loire, où l'union de la gauche et des écologistes, emmenée par Mathieu Orphelin, espère battre la sortante Christelle Morançais. Et puis, on en parle beaucoup moins ici en métropole, mais la Réunion pourrait aussi passer aux mains de la gauche. La droite, à l'arrivée, devrait bel et bien rester le premier parti de France au niveau local, mais un ou deux gros revers gâcheraient la fête.
Simon Le Baron, merci.
Dernières heures de campagne également dans les Hauts-de-France.
Oui, Xavier Bertrand, le président sortant de la région, explique aujourd'hui qu'il préfère les communistes au Rassemblement National dans le Nord, en vue du second tour des départementales, notamment pour ce qui concerne la politique dans le domaine de la culture. Selon Xavier Bertrand, la politique culturelle du Rassemblement National, c'est de la censure.
Plus d'une fois dans les délibérations, ils n'ont pas voté parce que ça leur plaisait pas à eux. Hey, la culture, c'est de la liberté d'expression, c'est de la liberté de création.
Elle est menacée,
non, mais...
avec eux.
Ah ben c'est évident, mais il suffit de regarder les sessions du Conseil régional. Une fois, c'était des poèmes trop crus, alors fallait plus financer un festival. Et puis dans les œuvres de cinéma, fallait quand même regarder les thèmes parce que est-ce que la région devait financer ? Non, zéro censure. S'il y a de la censure, il n'y a plus de culture. Et d'ailleurs, j'ai refusé que des élus du Conseil régional siègent dans les commissions pour étudier les projets. Faut de la liberté. Et une liberté totale. Et ça, je l'assume. Et tant que je serai à la tête de la région, il y aura zéro censure et il y aura zéro frein à cette liberté. Avec eux, ah, les choses sont claires. Ça ne serait pas la même culture, ce ne serait pas la même région.
Xavier Bertrand avec Stéphane Barbereau de France Bleu Nord et Xavier Bertrand qui, ce soir, prend les devants et grille la politesse à Emmanuel Macron. Le président des Hauts-de-France annonce la création de 1000 emplois et la création d'une usine de batteries électriques sur le site de Renault à Douai. Emmanuel Macron devait dévoiler officiellement ce projet lundi lors d'un déplacement à Douai. À l'étranger, une catastrophe inexpliquée et l'Amérique qui redoute un bilan humain effrayant. Un immeuble résidentiel à Miami Beach en Floride s'est effondré. Scène de désolation sur le front de mer où les secours poursuivent leur course contre la montre pour retrouver d'éventuels survivants dans les décombres. Le bilan est ce soir de 4 morts, mais les secours sont sans nouvelles de 159 personnes. New York, Loïc Loury.
Unfortunately, this has been a tragic night.
Une nuit tragique, selon la maire du comté de Miami, Surfside, 6000 habitants devraient en vivre d'autres dans les jours à venir, car les recherches sont fastidieuses dans ce qui était, il y a encore 48 heures, le pan entier d'un complexe résidentiel de 12 étages et 55 logements, une pile de gravats désormais dans laquelle les sauveteurs évoluent avec prudence.
Ce travail se fait au prix d'un risque extrême. Des gravats leur tombent dessus. Mais ils continuent parce qu'ils sont très motivés. Nous sommes obligés de les forcer à faire des pauses. Voilà à quel point ils sont impliqués.
Car espoir il y a, assure-t-elle, de retrouver des survivants, même si ce chiffre, plus de 150 disparus, laisse craindre le pire quant au bilan. Leurs proches rassemblés, notamment dans un centre communautaire de Surfside, ne peuvent qu'attendre.
Ils ont besoin de nourriture, d'un abri, d'argent pour leurs besoins essentiels. Et d'un soutien psychologique, bien sûr. C'est une nécessité critique, alors que nos efforts se poursuivent et que, à temps inquiets, des nouvelles des gens qu'ils aiment.
Le président Joe Biden lui a déclaré aujourd'hui l'état d'urgence afin de fournir une assistance fédérale aux secouristes et des solutions de relogement d'urgence aux rescapés. New York, Loïc Loury, France Inter.
Un Américain à Paris et pas n'importe lequel, le secrétaire d'État américain, francophone et francophile, Anthony Blinken. Il est donc en visite à Paris.
Oui, et Anthony Blinken avait rendez-vous cet après-midi à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Et ce matin, le secrétaire d'État américain a été accueilli en ami par Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, Louise Baudet.
Monsieur le secrétaire d'État, cher Tony.
Jean-Yves et Tony se connaissent depuis 2012. Ils se tutoient. Le second est parfaitement francophone et francophile.
Je suis content de me retrouver en France, une deuxième patrie pour moi, où j'ai vécu pendant plus de 10 ans.
L'album des retrouvailles s'enrichit donc d'une nouvelle photo, avec en légende la confiance retrouvée et la convergence sur de nombreux dossiers. Départ des mercenaires étrangers de Libye, pression sur les dirigeants libanais pour sortir le pays de l'abîme et pression sur l'Iran pour sauver l'accord sur le nucléaire.
There will
Il arrivera un moment où, oui, il sera très difficile de revenir aux standards de l'accord. Nous n'avons pas encore atteint ce moment. Je ne peux pas fixer de date, mais c'est un sujet dont nous sommes conscients.
C'est le moment pour l'Iran de prendre des décisions courageuses, renchérit Jean-Yves Le Drian, qui, sur ce sujet comme sur d'autres, fait entendre une petite musique aux oreilles de l'ami américain.
Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ont tenu la maison, ont tenu les murs pendant quelques années. Si nous n'avions pas eu cette vigilance déterminée, aujourd'hui, on ne renégocierait pas.
Nucléaire iranien, climat, multilatéralisme. Pendant que l'Amérique de Trump désertait, l'Europe a sauvé les meubles, rappelle le chef de la diplomatie française. Un leadership européen qui peine à s'imposer dans le logiciel américain, aussi chaleureuse soient les retrouvailles de ces dernières semaines.
L'enquête pour viol contre Patrick Poivre d'Arvor, classée sans suite pour prescription et insuffisance de preuves. Une plainte avait été déposée par l'écrivaine Florence Porcel contre l'ancien présentateur vedette du journal télévisé. Cette autre femme avait également porté plainte pour viol, agression sexuelle ou harcèlement sexuel. Bonsoir Jean-Philippe Deniaux.
Bonsoir Frédéric.
Le parquet de Nanterre classe l'affaire après 4 mois d'enquête et on a appris en fin d'après-midi que Florence Porcel dépose une nouvelle plainte avec constitution de partie civile.
Oui, car sa première plainte pour un viol subi en 2009 dans les locaux de TF1 était la seule qui n'était pas prescrite. Mais le parquet de Nanterre a estimé qu'il n'existait aucun élément permettant de confirmer les propos de l'un ou de l'autre. Patrick Poivre d'Arvor ayant toujours contesté avoir eu la moindre relation sexuelle avec la jeune femme. C'est donc un classement sans suite logique, commente son avocate Jacqueline Lafont.
Pour nous, cette décision s'imposait. Par les temps qui courent, je crois que les affaires de meurtre sont assez difficiles à trancher pour les magistrats. Et les magistrats ont su garder la tête froide et ont su retenir simplement une chose, c'est que les allégations qui étaient celles de la plaignante principale n'étaient pas crédibles et étaient contestées par des éléments notamment matériels.
Florence Porcel va donc déposer une nouvelle plainte qui sera vraisemblablement confiée à un juge d'instruction, car il faut aller plus loin dans les investigations, réclame son avocat Emmanuel Moine.
Il y a un certain nombre d'investigations matérielles qui n'ont pas été réalisées, certaines que nous avons demandées, notamment des investigations qui concernent le bureau dans lequel les faits relatés par notre cliente se sont passés. Des témoignages qui sont susceptibles de corroborer ce qui a été déjà décrit par notre cliente n'ont pas été recueillis. Il reste encore beaucoup de choses à faire dans ce dossier.
Et ce soir, une des plaignantes dont les faits sont prescrits lance un appel pour que des femmes qui auraient été victimes plus récemment franchissent le pas à y porter plainte. Il faut parler, il faut que ça cesse, on a tous à y gagner, écrit-elle sur Twitter.
Jean-Philippe Deniaux, merci. L'enquête sur la disparition de Lucas Tronche, de nouveaux ossements et de nouveaux objets ont été retrouvés, a déclaré le procureur de la République de Nîmes, Éric Morel. Les investigations, selon le procureur, s'orientent de plus en plus vers l'authentification de Lucas Tronche. Le variant Delta va-t-il s'inviter pendant nos congés et gâcher nos vacances d'été dans le département des Landes? Ce variant est désormais dominant. Conséquence, la dernière étape du déconfinement prévu le 1er juillet pourrait être repoussé dans les Landes si les indicateurs de l'épidémie ne s'améliorent pas. Et puis cet après-midi, la CGT a dénoncé des propos qualifiés de discriminatoires pour le personnel de santé tenus par le Premier ministre et le ministre de la Santé. Jean Castex et Olivier Véran, hier dans les Landes, avaient indiqué que manifestement une soignante non vaccinée était à l'origine du cluster déclaré dans l'EHPAD de Pontanx-sur-l'Adour.
La mer Méditerranée est envahie de déchets plastiques, bouteilles, microbilles, polystyrène à la surface de l'eau. Mais le plus effrayant, Frédéric, se passe tout au fond.
Oui, l'alerte est souvent renouvelée sur les ravages des déchets plastiques dans les océans. Nouvelle alerte aujourd'hui en forme de constat très inquiétant. Cette pollution se retrouve aussi désormais à 2200 mètres de profondeur. C'est ce qui ressort d'une étude menée par une équipe de scientifiques italiens et monégasques. Ils sont allés explorer les fonds marins sur une zone à cheval entre la France, Monaco et l'Italie, Célia Quiret.
Les scientifiques ont observé les fonds marins à plus de 2000 mètres sous l'eau grâce à un robot submersible. Des gobelets, des bouteilles, des ballons, des seaux de plage. Ils ont retrouvé de véritables décharges d'objets coincés dans les canyons sous-marins de la Méditerranée. Ces déchets viennent des villes. Plus au large, ce sont souvent des filets de pêche qui stagnent au fond des eaux. François Galgani, auteur de cette étude, est océanographe à l'Ifremer.
Les canyons, ce sont des entailles, si vous voulez, dans ce qu'on appelle le plateau continental. C'est un petit peu comme des grandes vallées sous-marines, si vous voulez. Et les courants font que les déchets qui arrivent des grandes métropoles, donc c'est Marseille, Nice, Barcelone pour la partie nord-ouest, mais c'est aussi des grandes villes dans tout le bassin méditerranéen, vont aller dans ces canyons et vont être transportés vers le fond. Et là, le fait qu'il y ait moins de courants, eh bien, ils vont s'accumuler dans certaines zones et c'est la raison pour laquelle on trouve très profond des zones d'accumulation. On montre, si vous voulez, que 95% des déchets vont sur les fonds plutôt que sur les plages en surface.
Or, ces décharges mettent en danger la biodiversité. Des poissons continuent, par exemple, de se prendre dans les mailles des filets et des espèces colonisent ces déchets qui servent de support. Or, ces fonds marins inaccessibles ne peuvent pas être nettoyés, à part pour certains filets de pêche qui peuvent parfois être récupérés. Seule solution pour les scientifiques, arrêter définitivement les plastiques à usage unique et recycler au maximum les objets. Et sinon, les canyons de Méditerranée deviendront encore davantage des poubelles géantes de plastique usagé.
Le gaz plus cher à partir du 1er juillet, plus cher de près de 10%. Le tarif réglementé de vente du gaz naturel vendu par Engie va donc augmenter de 9,96%. Une forte hausse due à l'augmentation des prix du gaz sur le marché mondial liée à la reprise économique. La médaille d'or 2021 du CNRS, l'une des plus prestigieuses récompenses scientifiques françaises, a été attribuée à Jean Dalibard, spécialiste de physique quantique et dont les travaux ont contribué à l'émergence de technologies révolutionnaires, précise le CNRS. Jean Dalibard, 63 ans, physicien de renommée internationale, a travaillé pendant plus de 30 ans au CNRS avant d'entrer au Collège de France il y a 9 ans. 14 000 spectateurs ce soir au Stade de France, 14 000 chanceux pour la finale du top 14 de rugby, Toulouse, La Rochelle, et qu'elle affiche les deux meilleures équipes de la saison régulière pour la fin. En direct du Stade de France, on retrouve un autre chanceux, Jérôme Val. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir Frédéric.
Toulouse, La Rochelle, c'est également la revanche de la finale de la Coupe d'Europe il y a un mois, remportée par le Stade toulousain.
Oui, c'était le 22 mai dernier à Twickenham à Londres, sans supporters venus de France, impossible à l'époque à cause du contexte sanitaire. Alors le décor change ce soir, le Stade de France en effet, des supporters, vous l'avez dit, venus en nombre des deux villes pour une finale historique, mais ça reste la même affiche entre les deux meilleures équipes de la saison. Alors en Coupe d'Europe, Toulouse l'avait en effet remporté à l'expérience 22-17, et si l'on s'en tient à ce critère strict de l'expérience évidemment, eh bien il n'y a pas photo ce soir entre les rouges et noirs de Toulouse, leurs 20 titres en championnat, leurs 5 Coupes d'Europe face aux jaunes et noirs de La Rochelle, complètement novices à un tel niveau. Mais si l'on se place sur le plan du jeu, alors ce duel est vraiment indécis entre Toulouse, qui compte le plus d'essais marqués cette saison, et La Rochelle, meilleure défense du championnat et mort de faim pour aller chercher le premier titre de l'histoire du club. Mais il y a, Frédéric, un élément à ne surtout pas négliger ce soir, la fraîcheur physique après la saison la plus longue de l'histoire. 58 semaines d'efforts et de sacrifices. Il faut encore donner 80 minutes pour toucher le bois du bouclier de Brennus.
Voilà, et Toulouse-La Rochelle, coup d'envoi à 20h45. Merci Jérôme Vallée. On termine avec la prescription culture de ce vendredi avec une très belle illustration d'un texte de Mohamed Dib dans Le désert sans détour chez Actes Sud BD. Cet auteur algérien incontournable met en scène deux personnages énigmatiques qui errent dans l'immensité des dunes. Jacques Fernandez a capté l'intensité des paysages algériens et des deux acolytes, ce qui est un subtil conte oriental. Jacqueline Pétrose.
Que sont ces vestiges ensablés d'une guerre inconnue? Et ces deux compagnons sont-ils des survivants, des soldats perdus? Que sont ces rêves devenus des fables? Ces tribus qu'ils croisent existent-elles? Agarbar, le maître, tout rond, et Cycliste, le valet, tout long, semblent sortis d'un vent de sable qui les a posés là. Leur dialogue cherche une réponse à l'énigme du monde. C'est en résidence dans le sud algérien que Jacques Fernandez a découvert ce texte de Dib de 1992 et qui résonnait si bien avec les lieux. Jacques Fernandez.
Tous les dessins qui sont dans le livre ont été réalisés sur place pendant une quinzaine de jours que j'ai passé à Tahrit, au pied d'une dune absolument splendide. Et tous les soirs, après le travail, j'allais escalader la dune pour regarder ce magnifique paysage au soleil couchant. Et c'était vraiment une manière de dessiner, si vous voulez, en m'imprégnant complètement du sujet. Mais en plus, les deux personnages sont assez bien décrits physiquement, donc je n'ai eu qu'à reprendre, si vous voulez, les descriptions. Et puis ça part ensuite vers une espèce de côté un peu mystique, un peu bizarre. Enfin, vous voyez, c'est ça que j'aime bien aussi dans ce texte, c'est qu'il n'a pas une signification trop appuyée. On peut vraiment se faire sa propre interprétation dans ce genre de récit.
En lisant Mohamed Dib, on pense à Beckett et Cervantes. Les deux héros déambulent en salopette ou dérisoire parapluie à la main dans les aquarelles solaires et chaudes de Jacques Fernandez, un beau et fort moment de poésie.
Jacqueline Pétrose dans Le désert sans détour chez Actes Sud BD. Laurent Bon, Laurent Lebon va prendre la tête du Centre Pompidou. L'actuel président du musée Picasso va remplacer Serge Lasvigne. Laurent Lebon aura pour mission de définir un nouveau projet culturel hors les murs. Le Centre Pompidou va être fermé fin 2023 pour 4 ans de longs travaux. Et puis cette information claire concernant le Festival de Cannes et le film très attendu OSS 117, l'alerte rouge en Afrique noire. Le troisième volet des aventures d'Hubert Bonisseur de Labatte sera projeté en dernière séance à Cannes. OSS 117, cette comédie d'espionnage parodique avec Jean Dujardin, Fatou Ndiaye et Pierre Niney et réalisée par Nicolas Bedos sera donc projetée lors de la soirée du Palmarès en clôture de la 74e édition du Festival de Cannes qui se tient cette année du 16 au 17 juillet. Au générique de ce 19h et avec toute la semaine en régie, Michel Bézikian et Clément Berman avec Lionel Thompson et Estelle Schmitt à la rédaction en chef, assistés ce soir de Julien Loquet et Sébastien Donat. Voilà, merci à l'équipe. C'est à vous, Claire.
Et à Frédéric Barrère aussi. Allez, on prend des nouvelles du temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Bonsoir, Lodi Calac.
Bonsoir à tous.
Temps perturbé au nord demain.
Oui, du nord-ouest vers la région parisienne, le nord de la Seine, on retrouvera nos pluies. L'après-midi, les pluies seront plus marquées sur le nord-ouest. L'Île-de-France et les Hauts-de-France auront droit à quelques averses, mais retrouveront de petites éclaircies. Ce sera plus sec sur la pointe bretonne, sur le Cotentin, toute la journée. Ailleurs, ce sera bien ensoleillé le matin. Juste un petit voile nuageux de la Nouvelle-Aquitaine au nord-est qui s'épaissira quand même l'après-midi avec une ondée orageuse isolée possible.
Et dimanche, Élodie, ça tournera à l'orage dans le sud-ouest.
Oui, déjà sur le sud-ouest, en fin de journée de samedi, hein, et pour la nuit suivante, des orages parfois violents éclateront avec de la grêle et de fortes rafales de vent. Et puis en effet, dimanche, c'est un temps instable qui s'étendra du sud-ouest jusqu'au nord du pays, avec des orages et des averses parfois intenses.
C'est noté. Merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France.